France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le débat fait rage sur la taxation des très hauts revenus avec un projet qui cristallise toutes les positions, la taxe dite Zucman, un prélèvement de 2% par an sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros qui concernerait 1800 foyers fiscaux. Mais au-delà des arguments techniques, une question politique, qui veut vraiment taxer, peu importe la modalité, les très hauts revenus, pour quelles raisons et quels arguments avancent celles et ceux qui s'y refusent? Un débat avec deux invités. Et ce soir, Anne-Laure Delatte, bonsoir.
Bonsoir, comment on fait ?
Vous êtes économiste, directrice de recherche au CNRS, professeure associée à l'Université Paris-Dauphine PSL et autrice de l'ouvrage intitulé « L'État droit dans le mur » qui est paru en 2023 chez Fayard et republié chez Point en mai dernier. Face à vous, Edwige Diaz, bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Merci d'être là. Vous êtes vice-présidente du Rassemblement National, députée de Gironde, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue dans Question du soir.
Ça fait 15 ans que j'étudie ces questions de grandes fortunes, que j'essaie de cartographier leurs richesses, d'objectiver leurs techniques d'évasion fiscale. Et c'est en étudiant tout ça que je suis arrivé à la formulation de cette proposition qui prend le contre-pied de ce qui a été fait historiquement. L'ISF commençait à 1 million, là on commencerait à 100 millions. Et en échange, il n'y aurait aucune exonération ou déduction, quelle qu'elle soit. Si vous avez plus de 100 millions, très peu de gens concernés, eh bien vous devrez payer 2% minimum. Il n'y aura pas de possibilité d'échapper à l'impôt, d'où un rendement espéré tout à fait significatif. Si vous avez 1 milliard d'euros de fortune aujourd'hui, vous pouvez espérer, c'est la moyenne, à la fin de l'année, avoir 1 milliard 100 millions. Avec le dispositif que je propose, l'État collecterait 2%, soit 22 millions. Donc, au lieu d'avoir 1 milliard 100 millions, vous auriez 1 milliard et 78 millions. Votre fortune, au lieu de croître de 10%, elle croîtrait de 7,8%.
La voix de Gabriel Zucman, économiste symbole même désormais. Il était l'invité de C'est à vous le 15 septembre dernier. Anne-Laure Delatte, pour commencer, avant d'entrer dans le détail de sa taxe, ses modalités, est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec la philosophie même portée par cette idée de politique publique?
Alors oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a besoin de ressources, et ça, je crois que ça n'échappe à personne, puisqu'on est dans une situation budgétaire compliquée, avec un déficit très important, voire historique à résorber, et donc toute recette réaliste est vraiment bonne à prendre. Ça, c'est mon premier point, et le rendement de 20 milliards est vraiment important, même si, Gabriel Zucman le reconnaît lui aussi, c'est une partie de la solution. La deuxième raison, c'est que le système fiscal français, il marche très bien, il est très efficace, plutôt progressif, mais il y a quelques sources.
C'est rare d'entendre.
Ah non, mais il marche dans l'ensemble. Si vous êtes riche en France, vous payez plus d'impôts que si vous êtes pauvre. Sauf à certains endroits. Il n'est pas efficace et il n'est pas juste. Et il y a un endroit en particulier qui a été documenté très récemment, qui est justement au niveau de ce qu'on appelle les ultra-riches, c'est-à-dire les personnes qui ont un patrimoine au-dessus de 100 millions d'euros. Ça concerne 1800 foyers en France, donc c'est très très peu de gens. Et ces 1800 foyers, ce que l'IPP, donc l'Institut des politiques publiques, a documenté très récemment, c'est que en fait, ces gens échappent à l'impôt, arrivent à optimiser leur fiscalité de façon à payer la moitié d'impôts en pourcentage de leurs revenus par rapport aux Français, par rapport à vous et moi. D'accord ? Donc en valeur absolue, évidemment, qui payent plus que vous, plus que moi. Mais comme en réalité, quand vous avez 100 millions de patrimoine au moins, c'est que vous avez un très haut revenu. Vous voyez la différence, le revenu, c'est les dividendes de ce patrimoine, c'est les salaires. Eh bien, en réalité, vous pouvez optimiser en général en mettant les dividendes de vos actions dans une holding. Ça, c'est une méthode d'optimisation. Cette holding est complètement défiscalisée. Et donc, ces gens-là payent très peu d'impôts sur leurs revenus. Au final, ils payent la moitié de ce que paierait leur secrétaire ou vous ou moi.
Ils payent beaucoup plus d'impôts que nous en valeur absolue, beaucoup moins en proportion. Edwige Diaz, votre position là aussi sur la philosophie, même avant d'entrer dans le détail, mais sur la philosophie même de cette taxe Zucman.
Moi, je considère que c'est qu'on se trompe de débat, en fait, parce que là, on essaye de faire croire que ce sont 1800 foyers fiscaux français qui, moyennant une augmentation de taxation, eh bien, vont régler le problème de la dette. Non. Le problème de la dette française, c'est les bonnes économies qui ne sont pas réalisées. Maintenant, pour vous répondre sur le fond de la taxe Zugman, nous, au Rassemblement National, nous y sommes très défavorables, parce que nous considérons que c'est une taxe inefficace, injuste et même dangereuse, en fait, dans le sens où elle peut être contre-productive. C'est-à-dire que ce type de taxe, c'est exactement un encouragement à la délocalisation et même un encouragement à la vente d'entreprises françaises à des capitaux étrangers. Parce que vous voyez, les entreprises, notamment les entreprises françaises, qui font partie des plus taxées du monde, eh bien, elles n'ont pas besoin d'avoir une taxe supplémentaire, parce qu'en fait, si on les taxe davantage, eh bien, c'est totalement contraire à la politique de croissance, à la politique de relance que le Rassemblement National veut mettre en œuvre, et parce que aussi le Rassemblement National est un parti politique pragmatique et il entend les inquiétudes des chefs d'entreprise.
Je vous reprends juste sur un point, le premier que vous avez mis en lumière. Gabriel Zecman lui-même, ça vient d'être rappelé, explique que sa taxe ne permettrait pas de tout résoudre et qu'il y a aussi évidemment une question de dépenses publiques. Mais Anne-Laure Delatte, sur la question, j'allais dire, du danger que représente cette taxe pour les entreprises françaises.
Je crois que c'est important, en effet, de comprendre ce que ça pourrait impliquer. Et c'est vraiment un vrai argument, donc il faut le prendre au sérieux. D'abord, je vais me corriger. Vous savez, il y a certains ultra-riches qui payent moins d'impôts que vous et moi, même en valeur absolue. Donc, je voudrais quand même corriger ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que il y a des méthodes d'optimisation qui font que certains ultra-riches ne payent pas d'impôts, alors que vous et moi en payez. Vous dites que ce serait inefficace et injuste, ça c'est quand même un peu compliqué de l'entendre, parce que justement l'efficacité de cet impôt, c'est que ça viendrait résoudre un problème qui est que vous avez des gens qui ne participent pas, qui ne contribuent pas au système fiscal français, et il me semble que c'est un élément très important du contrat social, du fait que vous avez envie de payer vos impôts parce que vous savez que tout le monde paye ses impôts de façon juste. Ensuite, vous dites les entreprises françaises sont les plus taxées du monde. Alors là, je pense que c'est important de se mettre à jour sur les données. Vous avez raison. Vous auriez eu raison au début des années 2000. Mais aujourd'hui, les entreprises françaises sont taxées au même niveau que l'Union européenne. En fait, on a fait énormément de baisses d'impôts sur les entreprises via des réductions d'impôts vous savez, l'impôt sur les sociétés a baissé à partir de 2017. Mais même avant, on avait mis tellement de crédits d'impôts en place, tellement d'aides publiques sous forme de déductions fiscales, qu'aujourd'hui, je crois que c'est important de le rappeler, il faut se mettre à jour sur les données. C'était vrai en 2000, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Les entreprises françaises sont sont au même niveau que l'Union européenne. Mais là, on ne parle pas des entreprises françaises. C'est ça mon point quand même. C'est qu'on est en train de parler de 1800 foyers fiscaux. Alors, certes,
et de leur patrimoine.
Et de leur patrimoine. Alors certes, bien sûr, Bernard Arnault fait partie de ces foyers fiscaux, et Bernard Arnault est propriétaire en partie de LVMH. D'ailleurs, c'est plus de 150 milliards de patrimoine, c'est quelqu'un qui a 150 milliards de patrimoine. 90% de ce patrimoine est détenu en actions LVMH. Donc c'est là-dessus qu'il serait taxé. En fait, c'est sur ce qu'on appelle le bien professionnel de Bernard Arnault. C'est pas l'usine de Bernard Arnault, ce sont les actions. Parce que comme il est propriétaire de cette entreprise, c'est là-dessus qu'on le taxerait.
Ce n'est pas l'outil industriel qui est concerné.
Non, et puis ce qui est important... Alors oui, pardon, j'allais... Ce qui est important, c'est de comprendre
et
quand
après,
même...
Je vous laisserai répondre,
oui,
déjà.
Et vous dites, ça va les faire partir. Et vous avez raison. Je crois que c'est important d'adresser cette critique, parce que c'est probablement la critique la plus intéressante, en tout cas la menace qui pourrait faire en sorte que cette taxe ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui est mis en place ? En fait, premièrement, les études, il y a une étude du Conseil d'analyse économique qui a été publiée il y a moins d'un mois, donc c'est les services du Premier ministre, le Conseil d'analyse économique, qui vous montre que sur deux expériences similaires, l'ISF français et l'ISF, enfin l'équivalent d'un impôt sur le patrimoine dans les pays scandinaves, il y a eu très peu d'exil fiscal. En réalité, sur des patrimoines de entre 1 et 100 millions, vous avez extrêmement peu d'exil fiscal. Donc moi, ça me rassure, ça. En revanche, c'est vrai qu'on peut se dire, quelqu'un qui paye beaucoup d'impôts, enfin, quelqu'un qui paierait beaucoup d'impôts, comme Bernard Arnault, qui disons que s'il a 150 milliards de patrimoine, il va se retrouver à payer 1 ou 2 milliards par an. Ah, waouh, c'est important. Donc là, effectivement, vous pouvez commencer à avoir peur qu'il parte. Qu'est-ce qui est mis en place dans cette taxe? Ce qu'on appelle l'exit tax, qui fait en sorte que Bernard Arnault, qu'il reste en France ou qu'il parte, devra s'acquitter de cet impôt pendant le temps de référence de cette exit tax. Donc, si on a une exit tax de 25 ans, il devra s'acquitter de cette taxe pendant 25 ans. Et ça, je pense que c'est une bonne incitation pour Bernard Arnault de ne pas partir tout de suite.
Une réaction sur le fond, Edwige Diaz, et là aussi sur la philosophie de cette exit tax. Est-ce qu'elle pourrait permettre d'empêcher certaines personnes, certains individus, certaines personnes très aisées de quitter le pays?
Oui. Moi, les chiffres dont je dispose, c'est que les prélèvements obligatoires de la France, c'est environ 46%. Nous, au Rassemblement National, nous voulons les baisser à 40%. Pourquoi ? Parce que nous entendons, en fait, l'inquiétude du monde économique et je crois que c'est 40% des chefs d'entreprise qui disent ne pas avoir confiance en l'économie française. Et en fait, cette absence de confiance, cette baisse de confiance, elle se matérialise notamment par des défaillances d'entreprises. Selon la Banque de France, l'année dernière, ce sont 66 000 entreprises qui ont été défaillantes. Et vous voyez, moi, je suis élue en Nouvelle-Aquitaine et d'après l'URSSAF de la Nouvelle-Aquitaine, ce sont 16 entreprises qui ferment par jour. Donc, en fait, face à cette situation qui entraîne, bien sûr, une augmentation...
Mais comment est-ce que la taxe Zucman, pardonnez-moi, vient toucher ces entreprises fragiles ou
Non, mais je vous réponds d'un point de vue général. Voilà, sur la philosophie du Rassemblement National en matière de fiscalité, d'allègement de la fiscalité. Donc, je le dis, nous voulons alléger la fiscalité des entreprises, mais pour autant, nous considérons que oui, il y a des points qui peuvent faire l'objet de taxations supplémentaires, par exemple sur les surprofits, sur les surrachats d'actions, sur les surdividendes. D'ailleurs, ce sont des éléments que nous avons proposés dans notre contre-budget l'année dernière. Mais en fait, ces taxes, nous estimons qu'elles ont une utilité si et seulement si elles permettent aux ménages français de retrouver du pouvoir d'achat et aussi aux entreprises françaises de retrouver de la compétitivité. Donc en fait, au Rassemblement National, on n'est pas du tout dans la même philosophie qu'Emmanuel Macron. Et je vous le dis, on met au cœur de nos préoccupations la question de la relance économique et de la croissance économique, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de l'effondrement économique actuel.
Mais Edouja, une fois encore, sur le plan, j'allais dire, philosophique, comment est-ce que vous posez même le diagnostic? Est-ce que vous reconnaissez déjà que notre système fiscal est régressif concernant les 1800 derniers... les 1800 derniers foyers fiscaux. Mmh. Est-ce que cela vous pose un problème, là aussi, de justice fiscale et de justice sociale?
Oui, mais en fait, s'il y a de la spéculation, en fait, nous, au Rassemblement National, nous souhaitons taxer la spéculation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre et qui n'est malheureusement pas mis en œuvre aujourd'hui. Mais en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ne veux pas qu'on se trompe de débat. La situation budgétaire de la France est ce qu'elle est aujourd'hui, notamment parce que les économies ne sont pas réalisées. Tout le monde paye beaucoup trop d'impôts. Je veux dire, tout le monde, tous vos auditeurs pensent qu'ils payent beaucoup trop d'impôts. Mais la question que l'on se pose, c'est où part notre argent? Comment est utilisé cet argent? Et en fait, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de problème de consentement à l'impôt. Les Français sont d'accord pour payer des impôts, mais je pense qu'il y a un problème de consentement à la dépense. Les gens se disent, je ne souhaite pas que mon argent soit utilisé de telle manière. Et c'est pour cette raison qu'avec Marine Le Pen, nous avons proposé toute une série d'économies. Nous les avons proposées au précédent Premier ministre. Nous le proposerons à Monsieur Lecornu. Ce sont des économies en matière d'immigration, de contribution de la France au budget de l'Union européenne, de subventions aux énergies intermittentes, de lutte contre la fraude qui n'est pas réalisée par exemple. Et en fait, voilà, une fois qu'on aura mis tout ça en œuvre, eh bien, je pense qu'on arrivera à rétablir un équilibre budgétaire, puisque je vous rappelle que l'année dernière, malheureusement, notre pays a fêté son 50e anniversaire de budget en déficit.
Mais donc d'un mot, et après je vais permettre à Anne-Laure Delatte de réagir, ça ne vous pose pas de problème que les très 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 aisés, les ultra riches, payent moins d'impôts en valeur absolue parfois et au moins en proportion que la moyenne des Français.
Non, mais je pense que c'est, je vous ai dit, voilà, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir, le problème. Et je vais juste vous donner quelques exemples de mesures que nous avons proposées l'année dernière dans notre contre-budget. Nous avions proposé d'augmenter la taxe sur les rachats d'actions, d'augmenter la taxe sur les transactions financières. Vous voyez, en fait, des mesures concrètes qui permettent vraiment de taxer la spéculation. Voilà, l'enrichissement indu sur profit, super dividende, sur rachat d'actions. Je pense en fait que c'est là qu'on a des leviers financiers à aller chercher et c'est là en fait qu'on va pouvoir rétablir de la justice fiscale.
Alors de là, une réaction, qu'est-ce que cela signifie pour vous taxer la spéculation ?
Alors, le premier point, c'est que quand vous êtes à ce niveau de richesse, les ultra-riches, on a documenté que le rendement annuel du patrimoine des ultra-riches, il est de 6% par an. 6% par an, ça veut dire que si vous avez 100 milliards d'euros, ce qui est moins que le patrimoine de Bernard Arnault, vous en gagnez 6 chaque année. Vous gagnez 6 milliards chaque année et l'État vous en prendra 2. Je veux dire, il faut juste rétablir un petit peu la façon dont cet impôt marcherait. On n'est pas en train de retirer de la propriété à des gens qui ont beaucoup d'argent. En fait, il gagnera toujours 4 milliards chaque année, en plus. L'autre point, je suis économiste, donc moi je fais des additions et des soustractions, et je suis intéressée parce que vous venez de dire que vous vouliez baisser de 6 points de PIB les impôts, donc passer de 46 à 40%. Alors 6 points de PIB, c'est 180 milliards d'euros. Si je fais le calcul, pour réduire le déficit, on a besoin d'environ 80 milliards d'euros. François Bayrou dit 100, allez, moi je vous dis 80. Donc en fait, vous voulez réduire les recettes de 180 milliards et faire un ajustement de 80 milliards. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver entre 250 et 260 milliards. 260 milliards. Donc vous voulez réduire les dépenses publiques de 260 milliards d'euros. Ça n'a jamais été fait. Juste, c'est intéressant parce que ce que vous proposez est finalement dans la ligne très directe de ce qu'a proposé le parti Renaissance, le parti du président de la République, qui consiste à baisser les prélèvements obligatoires. C'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. L'idée, c'était qu'en baissant la fiscalité sur les entreprises, on allait les rendre compétitives, productives. Alors, simplement pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs et aux auditrices, vous proposez 6 points de PIB. C'est particulièrement ambitieux parce que Emmanuel Macron, lui, en a fait 2. Et vous voyez qu'on est déjà dans une situation budgétaire très compliquée. C'est-à-dire qu'il y a 60 milliards d'euros en moins dans les caisses chaque année. Et là, vous êtes en train de nous proposer 180 milliards en moins. J'ai du mal à boucler votre budget. Je ne vous vois pas où est-ce que vous allez trouver ces 280 milliards.
Et d'où je dirais, expliquez-nous comment vous parvenez à penser même cet effort historique que serait la réduction de la dépense publique.
Par exemple, vous avez dit la taxe sur les transactions financières, mais oui, faisons-la. Elle est déjà faite, elle rapporte 2 milliards. 2 milliards par an. Si vous voulez la réformer, elle va peut-être vous en ramener 1 milliard de plus.
Oui, tout à fait. Ce qu'on a
et il nous faut 250 1 milliard.
3. Mais oui, mais en fait, et c'est une addition. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que là vous nous avez donné des chiffres que je ne conteste pas. Je vous dis juste en fait que vous les avez pris à périmètre constant et en fait avec la philosophie qui est en vigueur actuellement, c'est-à-dire la philosophie des macronistes. Nous, évidemment, avec Marine et Jordan, nous incarnons une rupture par rapport à cette philosophie macroniste. Et donc oui, je le dis, il faut baisser les impôts de production des entreprises, pas pour nous faire plaisir, juste en fait parce que nous considérons que c'est un bon levier pour ramener de la croissance, pour lutter contre le chômage, pour faire en sorte que les gens retrouvent du travail. Et notamment, nous avons un programme très ambitieux sur l'emploi des jeunes, puisque nous souhaitons les inciter à rentrer tôt dans le monde du travail en favorisant en fait une dotation. C'est-à-dire, en fait, pour tout jeune qui travaille pendant ses études, eh bien, nous voulons lui verser un complément de salaire, en fait, pour rentrer tôt dans le monde du travail, pour qu'il paye des cotisations sociales très tôt.
Mais répondez juste sur cet effort massif que représenterait la diminution de la dépense publique que vous portez.
Alors tout à fait, donc sur la diminution de la dépense publique, je pense que rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai parlé donc de la question de l'immigration. Oui, nous considérons que les prestations sociales non contributives doivent être réservées aux Français. Par exemple, les allocations familiales.
Donc la préférence nationale.
Oui, c'est ça, c'est une priorité nationale parce que je considère, vous voyez, les allocations familiales qui sont accordées aux familles étrangères et extra-européennes, c'est-à-dire dont au moins l'un des parents n'est pas français, c'est 10 milliards d'euros, vous voyez, un élément de récupération d'absence de dépenses, en fait, que nous pourrions rapidement mettre en œuvre. Par exemple, sur la question du RSA aussi, nous considérons que c'est un point qu'il faut réserver aux nationaux. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure je vous ai pas parlé, tiens, par exemple, des économies que nous voulons réaliser sur les agences d'État. Sur le contribuable associé, il y en a un peu plus de 1000 qui coûteraient à peu près 80 milliards d'euros par mois. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les 80 milliards d'euros par an, pardon, mais en fait, il y a quand même des agences, des comités dont on s'interroge sur l'utilité.
Lesquels, par exemple ?
Regardez, par exemple, le Haut Commissariat au Plan. C'est dans cette instance qu'a siégé Monsieur Bayrou avant de devenir Premier ministre. Qui peut nous dire quel rapport d'utilité nationalement reconnu a été rédigé par cette instance ?
Le Haut Commissariat au Plan, vous prenez cet exemple, le Haut Commissariat au Plan, par exemple, il est actuellement en train de fusionner avec France Stratégie.
Depuis toutes ces années, en fait, il n'a pas fusionné. Moi, ce que je vois, c'est que donc avant, c'était Monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou, pendant des années, a été à la tête du Commissariat au Plan. Maintenant, c'est un aussi ancien ministre. Vous voyez, Monsieur Clément Beaune, donc un ministre remercié. Vous voyez, je vais vous donner un autre exemple. Moi, je siège en commission des lois à l'Assemblée nationale. Tous les ans, nous recevons en audition la contrôleure générale des lieux de privation de liberté qui, tous les ans, vient nous expliquer que les prisons sont saturées. Eh bien, écoutez, moi, quand je lui ai dit qu'on pouvait peut-être commencer par revoir son salaire parce qu'elle touchait 12 000 euros par mois, elle m'a dit non, je gagne que 10 000 euros par mois. Vous voyez, en fait, il y a quand même une certaine déconnexion que les Français ne comprennent pas. Et en l'espèce, son instance coûte 6 millions d'euros à la collectivité. Et en fait, toutes ces agences, on les a étudiées dans le projet de loi de simplification. Avec mon collègue Mathias Renaud, nous avons déposé une centaine d'amendements en fait pour supprimer, fusionner, rationaliser ou réinternaliser ces opérateurs. Eh bien, malheureusement, tous nos amendements ont été rejetés. Donc, vous voyez, je pense, quand je dis que rien n'a été fait pour faire des économies, je pense que je ne suis pas loin de la vérité.
On a quand même du mal à percevoir avec ces explications comment vous atteignez ce montant colossal de 260 milliards.
Là, je vous ai donné des exemples précis parce que c'était pour illustrer mon propos, mais je vous ai donné quand même pas mal les grandes orientations. L'immigration, l'Union européenne, les énergies intermittentes, la lutte contre la fraude, les agences d'État, plus la relance de l'économie, la relance de la natalité, le soutien aux entreprises. Oui, en fait, un changement de paradigme, je pense que qu'il peut offrir des résultats qui ne sont pas ceux que nous voyons aujourd'hui.
Anne-Laure Delatte, est-ce que vous percevez vous-même un changement de paradigme dans ces propositions et ces mesures ?
Premièrement, c'est vraiment intéressant que vous parliez de rupture parce que moi, j'entends vraiment exactement le même programme que ce que propose le parti présidentiel.
Ah non,
puisque
pas dire ça.
Vous baissez les prélèvements obligatoires. Vous nous avez dit, je vais baisser les impôts sur les entreprises pour les rendre plus compétitives et plus productives.
Mais c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron.
C'est ce qu'on entend depuis 2017.
Mais c'est
exactement... pourquoi, s'il l'a mis en place et que ça n'a pas marché, pourquoi ça marcherait contre le Rassemblement national ? Il l'a vraiment mis en place puisqu'il y a bien 60 milliards de recettes en moins chaque année. On a baissé les prélèvements obligatoires de façon massive dans ce pays depuis 2017. Ça aurait dû augmenter la productivité des entreprises, augmenter l'emploi, augmenter l'activité. Ça n'a pas eu lieu et c'est ce qui explique que nous nous retrouvons dans une situation de déficit budgétaire. Ce que j'entends, c'est que vous avez exactement la même stratégie, et je ne comprends pas comment ça fonctionnerait, pourquoi ça fonctionnerait mieux. Après, ça c'est le premier point. Sur le second point, vous nous avez donné une liste de réduction de dépenses pour arriver à 250 milliards d'euros. De nouveau, 250 milliards d'euros, c'est vraiment colossal. Je vous rappelle que même François Bayrou parlait de 100 milliards, je veux dire 250 milliards. On est vraiment dans des ordres de grandeur qui sont difficilement concevables à mon niveau.
Même sur plusieurs années, Anne-Laure Delatte, même sur 10 ans, 15 ans, est-ce qu'on ne pourrait pas étaler sur plusieurs années, sur une décennie même, la réduction de la dépense à tel point ?
Alors, il faudrait réduire chaque année de 25 milliards, chaque année en plus. Donc, vous baissez 25 milliards cette année, vous baissez 50 milliards l'année suivante, etc., etc. Ça me paraît compliqué, et surtout, où est-ce qu'on les trouve ? Juste, j'ai fait le calcul, là, vraiment, sur le... sur ma feuille, parce que vous nous dites que vous pouvez retrouver 10 milliards d'impôts, vous pouvez récupérer 10 milliards de dépenses sur les allocations familiales reçues par les familles, d'origine étrangère ou immigrée. Alors, la population immigrée en France, elle est, on la connaît pas bien, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas. Enfin, on n'est pas complètement capable de la documenter précisément, mais au maximum, elle est de 700 000 personnes. Ce que vous venez de dire là, 10 milliards d'impôts sur 700 000 personnes, 10 milliards de dépenses publiques économisées sur 700 000 personnes, ça voudrait dire qu'on donne 15 000 euros par personne et par an d'allocation familiale aux personnes immigrées.
Vous n'avez pas les bons chiffres, en fait.
J'ajoute juste une question à la remarque d'Anne Lordelatte. Nosservicespublics.fr avait pointé lors de la loi immigration de décembre 2023, où la préférence nationale était au cœur de certaines propositions, une étude et expliquait que c'était en fait une préférence pour la pauvreté qui toucherait au moins 110 000 personnes, dont 30 000 enfants, donc 110 000 nouvelles personnes qui basculeraient dans la pauvreté. Comment aussi vous réagissez face à ce chiffre? Est-ce que ça impliquerait du point de vue social?
Alors du coup, il y a plusieurs questions là auxquelles
il faut répondre. Edwige Diaz va répondre peut-être à la remarque d'Anne Lordelatte ensuite, et je reviendrai avec ma remarque.
Vous dire que les étrangers, donc je ne vous parle pas des personnes d'origine immigrée, je vous parle donc des étrangers, ceux qui ne sont pas français, ils sont bénéficiaires à hauteur de 28% des prestations sociales non contributives, alors qu'ils représentent 12% de la population. Donc du coup, les chiffres que vous avez indiqués,
Quelles sont vos sources, madame? Parce que vraiment, ça ne correspond à rien. Enfin, pardon.
Ah bon, écoutez, moi je vous invite à lire un article de Marianne sur des chiffres donnés par l'OCDE. Donc en fait, voilà, je pense que vous pourrez retrouver les chiffres que je vous donne et en tout cas qui n'ont jamais fait l'objet de contestation.
Moi
je vous dis un article de Marianne, vous allez voir, sinon vous écrivez à Marianne peut-être, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un chiffre qui se tient. Je travaille aussi avec qui s'appelle l'Observatoire de l'immigration et de la démographie et qui précisément en fait nous explique que oui, bien sûr, les étrangers sont surreprésentés dans la distribution d'aides sociales, que ça soit des aides sociales contributives ou non contributives, mais aussi dans par exemple l'attribution des logements sociaux. Et c'est pour ça que oui, nous le disons avec le Rassemblement National, nous souhaitons mettre en œuvre la priorité nationale, notamment dans l'attribution des logements sociaux, parce que oui, tout ceci a un coût, en fait, cette solidarité internationale a un coût, et au regard de la situation de nos finances publiques, eh bien, nous considérons que l'État français ne peut plus assumer cette solidarité internationale.
Mais pourquoi ce devrait être le critère, au sens où des personnes qui travaillent devraient avoir des droits égaux? C'est aussi cela, la philosophie, j'allais dire, d'un contrat social. Pourquoi faire de la variable de l'origine le déterminant pour dire, vous n'aurez pas accès à ce logement ou à ces aides sociales?
Typiquement, en fait, pour les allocations familiales, moi, je considère que les impôts des Français doivent contribuer à relancer la natalité française. Voilà. Après, c'est une philosophie que vous ne partagez peut-être pas, mais en tout cas, c'est celle du Rassemblement
national. J'ai du mal à voir le lien entre les impôts que l'on paierait avec la relance de la natalité, mais...
On peut dire que ces 10 milliards d'euros que coûtent les allocations familiales au bénéfice d'étrangers, c'est un soutien à la politique nataliste qui doit être réorienté vers la politique nataliste nationale.
Okay, Il y a la santé. En fait, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que deux personnes qui travailleraient dans la même entreprise et qui paieraient des cotisations, elles payent les mêmes cotisations puisqu'elles recevraient un salaire, elles paieraient les mêmes cotisations, il y en a une qui n'aurait pas accès aux mêmes soins que l'autre.
Je vous ai parlé des allocations familiales que nous souhaitons réserver aux familles dont au moins l'un des parents est français. Voilà. Donc vous pouvez être rassuré de ce point de vue-là.
Sur les impôts, pas de cotisation non contributive.
Les impôts là, où du coup je me suis étouffée quand vous aviez dit qu'on avait la même politique qu'Emmanuel Macron. Absolument pas. Emmanuel Macron fait tout pour plomber les entreprises, contrairement à ses discours. Ça, je suis d'accord avec vous. Il a dit qu'il allait aider les entreprises. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont voté pour lui en 2017 et qui se sont fait avoir à nouveau en 2022. Mais la réalité est la suivante. C'est que, vous voyez, je vais vous donner un exemple très précis. Emmanuel Macron, en campagne présidentielle en 2022, dit aux entreprises, je vais vous supprimer la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Emmanuel Macron, élu président de la République, il dit, bon, finalement, au lieu de vous exonérer de 4 milliards d'euros, si ma mémoire est bonne, eh bien, je vais vous exonérer de 2 milliards d'euros maintenant et 2 milliards d'euros plus tard. On arrive au moment des discussions budgétaires l'année dernière. Qu'est-ce que nous dit Emmanuel Macron ? Eh bien, on va reporter en quelque sorte à la Saint-Glinglin la deuxième partie de l'exonération de cette CVAE. Donc en fait, c'est ça qui crée une instabilité et une crainte chez les chefs d'entreprise. Et après, vous avez plein de petites taxes en fait qui se rajoutent. C'est que le gouvernement autorise les collectivités territoriales à prélever plus de taxes. Vous voyez, moi je suis élue au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Nous avons la LGV, donc la ligne à grande vitesse qui relie Bordeaux à Paris et qui va peut-être relier Toulouse et le sud de la France direction l'Espagne, eh bien, on a découvert l'instauration d'une taxe spéciale d'équipement, qui est en quelque sorte une taxe LGV, qui va fiscaliser les propriétaires et les entreprises. On a un autre exemple, et je voulais en parler, parce que c'est vraiment un exemple qui inquiète le monde économique, en tout cas dans mon département, la Gironde, c'est la question du versement mobilité régionale rurale. Là, en fait, c'est une taxe que les conseils régionaux vont pouvoir prélevé sur à hauteur de 0,15% sur les entreprises de plus de 11 salariés. Donc en fait, c'est typiquement ça qui est un frein au recrutement et peut-être même une accélération vers le licenciement.
Je voulais aborder la question de l'aide aux entreprises à travers, pour commencer, la voix de Sophie Binet. Elle s'exprimait en août 2025 dans la matinale de France Inter.
Il y a un rapport qui a été publié par le Sénat en juillet dernier qui dit qu'il y a chaque année 211 milliards d'aides publiques aux entreprises qui sont consenties sans condition ni contrepartie, que Bercy n'est même pas capable de les évaluer et que Bercy n'est même pas capable et ne le demande pas aux entreprises de rembourser ces aides quand elles licencient, comme Michelin par exemple, où avec de l'argent public, l'argent de nos impôts, nous avons payé des nouvelles machines pour l'usine de Cholet à Michelin. Michelin a décidé de fermer son usine de Cholet et l'État ne réclame même pas le remboursement des aides publiques.
En ces temps d'existence, Anne-Laure Delatte, et selon un rapport du Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan, le CICE aurait permis la création de 100 000 emplois pour un coût total de 100 milliards d'euros. Est-ce que ce dispositif vous paraît efficace ? Et qu'est-ce que cela dit plus largement de la façon dont l'État interagit en matière d'aide aux entreprises avec les dites entreprises ?
Alors,
je vous vois souffler.
Oui, non, je faisais mon petit calcul sur effectivement. Donc le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui a été mis en place dans les années 2010 sous le gouvernement Hollande, a été prolongé ensuite à partir de 2019 comme une exonération de cotisations sociales. C'est exactement, il me semble, la philosophie que vous étiez en train de présenter à l'instant. L'idée, c'est de réduire le coût du travail sur quasiment l'ensemble de l'échelle des salaires. Comme vous venez de le dire, en fait, les effets sont tellement faibles en termes de création d'emplois que on estime, si j'ai bien fait le calcul, on estime qu'une création d'emploi aura coûté 1 million d'euros, en fait. Donc, en termes d'efficacité de la dépense publique, effectivement, on est assez loin de ce qui est souhaitable pour des contribuables. Les aides publiques aux entreprises, ça a été une philosophie qui a été mise en place à partir de 1995, mais très accélérée dans les années 2010. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la politique de l'offre. Les aides publiques, en fait, ce sont des exonérations de cotisations sociales, ce sont des réductions d'impôts, des crédits d'impôts. Et donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, les entreprises françaises payent, ont un taux effectif d'imposition qui est le même que celui de l'Union européenne. Donc ce que vous proposez aujourd'hui apparemment au Rassemblement national, c'est de baisser encore ce niveau de prélèvement obligatoire. Certes, mais alors comment est-ce qu'on finance le modèle des dépenses publiques ? Comment est-ce qu'on continue à financer la santé, l'éducation publique ? J'ai vraiment du mal à le comprendre. En fait, ce que je comprends, là, avec la discussion qu'on a ensemble, c'est que Je comprends qu'il y a une continuité dans la politique de l'offre, cette baisse des prélèvements obligatoires. Vous vous insurgez de cette taxe mobilité ou qui pèse sur les entreprises. Mais au final, si on agrège tout de nouveau, les entreprises françaises ne sont pas plus taxées que les entreprises européennes. Mais vous ajoutez de l'exclusion. Et vous ajoutez à la fin de la violence. En fait, la différence entre le programme économique d'Emmanuel Macron et votre programme, en stratégie économique, on est la même, la philosophie est la même, mais elle est beaucoup plus importante parce que lui aura fait 60 milliards. Vous, vous êtes en train de proposer 180 milliards de recettes en moins, uniquement sur les entreprises. Mais vous rajoutez de la violence et de l'exclusion quand vous dites que deux personnes qui travailleraient dans la même entreprise paieraient les mêmes cotisations, mais il y en a une qui ne bénéficierait pas du modèle social français, et l'autre, elle en bénéficierait. Mais en revanche, celle qui ne bénéficie pas ni de la santé, parce que quand vous parlez de contribution, de cotisation contributive, on parle de santé, enfin en tout cas, il faut connaître les définitions. Quand vous dites ça, non seulement ça ne rapporterait absolument pas les 10 milliards que vous dites, mais en plus, vous amenez de la violence, parce que ça veut dire que ces gens cotiseraient, mais ne bénéficieraient pas du modèle.
Alors une réaction, Edoujage, et notamment sur cette politique de l'offre, est-ce que dans le fond, vous ne faites que pousser le curseur par rapport à Emmanuel Macron ?
Je ne vais pas répondre sur les accusations d'exclusion et de violence dont serait à l'origine le Rassemblement National, parce que vous avez été présenté comme une économiste, mais vous avez oublié de préciser que vous étiez une économiste de gauche et que vous souteniez le programme économique du Nouveau Front Populaire. Donc je ne vais pas vous répondre sur l'aspect exclusion et violence, parce que j'estime que là, c'est de la, comment dire, des éléments de langage politisés. Moi, je vais vous répondre sur le fond. Vous avez dit trois reprises depuis que nous sommes sur le plateau que les entreprises françaises n'étaient pas plus taxées que les autres entreprises de l'Union européenne. Mais écoutez, c'est faux. Moi, je vais vous dire que selon Fipeco, donc c'est un article qui est publié sur BFM TV, la France est le pays d'Europe qui paye le plus d'impôts. Voilà. C'est la conclusion que tire Fipeco des chiffres publiés par Eurostat pour l'année 2022. Le taux des prélèvements obligatoires en France en 2022, 48% du PIB, était supérieur de 6 points au taux de la moyenne de la zone euro, ce qui fait de la France le pays le plus taxé de l'Union européenne.
Comme il nous reste une minute.
Donc je ne sais pas où vous avez vos chiffres, mais peut-être qu'ils sont là aussi, comme vous, assez politisés.
Les ménages et les entreprises. Non, mais vous parlez, là vous utilisez des chiffres. Les 48%, c'est ménages et entreprises. En fait, il faut connaître ces chiffres, il faut se mettre à jour.
Non, mais vous voyez, je pense que votre...
Comme il nous reste une minute, oui. Encore une fois, quel est votre rapport à la philosophie de la politique de l'offre, du point de vue économique, Edwige Diaz ?
Ben, je vous dis, moi, je pense qu'Emmanuel Macron a totalement raté. Il s'était présenté comme un Mozart de la finance. Il a plutôt fait effondrer les finances publiques, puisque depuis qu'il est en responsabilité, la dette a augmenté de 1000 milliards d'euros. Il avait promis de réduire le chômage. Moi, ce que je vois, c'est que le chômage ne se réduit pas. Et en tout cas, il y a une vraie précarisation des travailleurs. Vous savez, je vous l'ai dit, moi, je suis élue en Gironde. Non, mais c'est pas vrai. En fait, ce sont des petits boulots, c'est de la précarité. Et moi, je vois dans mon département de la Gironde, oui, une vraie détresse sociale de la part des travailleurs français qui nous disent qu'ils ne peuvent plus vivre décemment de leur travail.
Oui. Merci beaucoup, Anne-Laure Delatte, économiste, directrice de recherche au CNRS, professeure associée à l'université Paris-Dauphine PSL, et Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement National, députée de Gironde, conseillère de Nouvelle-Aquitaine. Et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vincey, Antoine Héral, et tout de suite après le journal, l'Europe post-Shoah a-t-elle disparu ? Une discussion avec le philosophe Bruno Carsanti.